Thank you, Karen.
Alors, est-ce que les gens, des membres du comité du Congrès, peuvent-ils se lever, s'il vous plaît? Et je vous invite à venir à l'avant. L'organisation d'un congrès demande beaucoup de travail. Nous avons travaillé extrêmement fort cette année et votre temps et vos efforts sont immensément appréciés. Est-ce que tous ceux qui se sont impliqués lors du congrès pourraient se lever, s'il vous plaît? Les conférenciers aux ateliers, les différents bénévoles pour du service, les personnes à l'accueil, les gardiens du temps. La participation d'un grand nombre allège beaucoup la tâche, donc nous vous remercions pour votre implication. Nous voulons également remercier tous les intergroupes, groupes et individus qui ont contribué à la constitution des paniers pour les tirages. Nous apprécions vraiment votre soutien à la région. Nous avons essayé quelque chose de nouveau cette année et nous pensons que ça a bien fonctionné. On n'a pas encore le montant ramassé par les tirages, mais on sait que c'est au-dessus de 3 000 $. Vrai que j'ai jamais fait ça avant. Alors, nous allons vous présenter le prochain conférencier. Alors, c'est Ed.
Bonjour à tous. Je suis Ed et je suis un autre mangeur compulsif. C'est un vrai plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Oui, je vais ralentir. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? C'est mieux? Pas vraiment. Allez. On fait des petits réglages. C'est mieux là? Bon, allez, Marc, aide-moi. Maintenant, je l'ai dans la tête. Merci. Ah, c'est parfait, merci. Alors, est-ce que tout le monde est bon? OK. Je suis dans le programme depuis 1989, j'ai fait 3 rechutes. Mais c'est le programme qui m'a sauvé la vie. Je serais perdue si j'avais pas le programme. Je vais vous parler un petit peu de mon histoire. Et puis, on a entendu travailler le programme en utilisant le gros livre ou le 12 étapes et 12 traditions. Et aujourd'hui, je vais vous parler aussi un petit peu de mes parrains. Voilà. Alors moi, je suis un thérapeute. Donc, les thérapeutes, ils aiment bien regarder en arrière. Et jusqu'à mes 30 ans, je m'étais jamais rendu compte que je venais d'une famille d'addicts, en fait. Mes grands-parents étaient alcooliques, pardon. L'un de mes grands-pères était abusif physiquement. Ça a eu un effet réel sur mes parents. Ma maman était dépressive. Mais je ne leur en veux pas, hein. C'est juste que je plante le décor pour que vous compreniez d'où je viens. Maman était, elle souffrait de dépression, elle était une mangeuse compulsive, notamment sur le chocolat. Mon père aussi était un autre mangeur compulsif et d'ailleurs il jouait également. Il pariait sur les chevaux et il n'a jamais rien gagné d'ailleurs, mais il continuait à jouer et à jouer. Mais tous les deux, ils m'aimaient, sans aucun doute. Mais en tenant compte de là où ils venaient et ce qu'ils devaient produire en tant que parents, ça a eu un effet sur moi. Mon père souffrait de blessures neurologiques dues à la Deuxième Guerre mondiale. Il était souvent en manque de sommeil. Et pourtant, il se fatiguait, il n'arrivait pas à se reposer. Donc, on n'était pas très proches. Et pourtant, j'ai aucun doute qu'il m'aimait. Et maman, elle m'aimait, mais elle est pas proche de moi. Alors, en tant qu'enfant, ma façon de gérer ces problèmes, ça a été de m'isoler. Je restais dans ma chambre. Je lisais énormément. Je dévorais les livres, surtout de la science-fiction. Parce que surtout, ça m'envoyait dans d'autres mondes plutôt que d'être dans mon monde à moi. Et pendant ce temps-là, en plus, je mangeais. Alors, le problème avec ça, c'est que j'étais très isolée et que j'avais du mal à créer du lien avec qui que ce soit. Donc ça a eu un effet sur mon sens de moi-même, en fait, sur qui j'étais. Les profs m'aimaient bien, hein, ils avaient un très bon ami sur moi, hein, un très bon avis, que j'étais un très bon garçon. Et puis je suis allée au lycée et puis je continuais à être toujours aussi isolée. Et puis à 17 ans, il y a la première femme qui m'a montré un petit peu d'affection et du coup, je l'ai épousée. Et j'avais 20 ans quand j'ai fini l'université. Mais je reviendrai là-dessus parce que ça ne s'est pas si bien passé, comme vous pouvez vous en douter. Donc, j'ai eu mon diplôme en travailleur social. Je voulais travailler social, aider les gens. Et mes premières missions étaient auprès de délinquants, de jeunes délinquants. Et à l'époque, mon épouse ne travaillait pas. Je voulais qu'elle soit à la maison et qu'elle élève notre fille. Et le problème, c'est que les travailleurs sociaux, ça paye pas très bien. Donc, je ramenais pas beaucoup d'argent. Je travaillais 35 heures par jour. Après mes délinquants fugueurs. Et puis, je travaillais aussi 3 nuits dans une clinique de santé mentale pour essayer de rapporter un petit peu plus d'argent. Et du coup, j'étais tout le temps fatiguée. Et ça a eu vraiment un impact. Alors, comment est-ce que je me nourrissais? Bah, quand j'étais enfant et que j'étais isolée, je mangeais, hein. Je mangeais des gâteaux, je mangeais des bonbons. Choses comme ça a aidé à ce que je me sente moins anxieux. Et quand je suis devenue un adulte, j'attendais que tout le monde soit allé au lit et je me rendais dans le frigo. Et c'était bon pour moi. J'étais un glouton. Mon épouse achetait ses tartes à la pomme merveilleuses et je mangeais tout. Et le lendemain, elle disait, bah, où sont passées les tartes aux pommes pour notre fille? Et je dis, ah, mais je ne sais pas. Pendant toute ma vingtaine, j'ai essayé de perdre du poids et je faisais le yo-yo en faisant des régimes. Au début de mes 30 ans, mes habitudes alimentaires, c'est simple. Je mangeais ce que je voulais quand je voulais. Je mangeais 5 fois par jour. Je continue à manger des nourritures surtout sucrées. Je mangeais dans la poubelle des choses que j'avais jetées. Je mangeais beaucoup de carbohydrates et surtout les pâtes, parce que surtout c'est bon pour aller dormir les pâtes. Hop, 500 grammes de pâtes et puis c'est bon, on dort après. Donc, je m'en sortais bien avec mes délinquants et du coup, j'ai eu une promotion. Et cette fois-ci, je m'occupais d'une dizaine de délinquants qui habitaient ensemble pendant 18 mois dans la même maison. C'était un vrai défi. Et le premier mois, j'ai perdu 12 kilos parce que je ne pouvais pas manger. Parce que j'avais tellement, tellement de travail avec mes 10 adolescents hurlants qui voulaient se battre avec moi, j'avais pas le temps de manger. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je suis allée voir un thérapeute. Alors je l'appelle avec amour Victor l'horrible. Il était merveilleux. Après 6 mois, il m'a dit, Ed, est-ce que tu sais que tu es un mangeur compulsif? J'ai dit, quoi? Mais tu ne le sais pas? J'ai dit, mais de quoi tu parles? Enfin, tu es un thérapeute. Tu ne sais pas ça? Mais non, ça m'est jamais monté à la tête. Mais où est-ce que tu étais? Il m'a dit. J'ai dit, bah, je crois que j'étais en train d'avoir mon déjeuner. Alors, Victor m'a poussé. Il m'a poussé à venir en Noa. D'abord, le jour où je voulais aller à ma première réunion, je suis allée plusieurs fois à ma première réunion en restant sur le parking. Et puis un jour, ma puissance supérieure m'a enfin donné le courage d'aller vraiment à une réunion. Alors, j'ai regardé à l'intérieur de la salle et il y avait que des femmes. J'ai rien.
L'idée. Bien sûr. Quand
Non.
où est-ce qu'ils s'assoient les autres
Excusez-moi, j'ai
mangeurs?
une coupure
Ils
d'internet.
sont dans une
Alors,
salle?
j'y suis retournée, mais je suis restée à l'arrière de la salle. Et j'étais le seul homme, hein. Je suis restée tout au fond de la salle. Donc, du coup, j'espérais que personne ne me remarquerait. Mais il y avait au moins 50, 55 personnes. Et à la pause, tout le monde est venu me voir. Et ils m'ont serré la main, ils m'ont donné des numéros de téléphone. Et ils étaient tellement amicaux. Enfin, elles étaient tellement amicales. Et puis, elles m'ont fait des câlins, elles m'ont pris dans leurs bras. On a rigolé, j'ai senti de la joie. Et au début, je me suis dit, bon, bah, c'est une espèce de secte folle, en fait, ce truc. Et j'ai quitté cette première réunion avec une petite flamme allumée. Alors, j'ai continué à revenir à cette réunion. Et puis un jour, je me suis dit, je veux ce que ces femmes ont. Alors, je suis restée. Et Victor l'horrible continuait de m'encourager à y aller, mon thérapeute. Et finalement, je me suis dit, mais ici, je suis chez moi. Et ça m'était jamais arrivé d'avoir cette sensation, de me sentir chez moi quelque part. Alors, j'ai demandé à quelqu'un d'être mon parrain. J'étais plus isolée et j'avais aucune intention de travailler sur moi-même, par contre. Mon but, c'était la stricte vanité et perdre du poids. C'est tout. Alors, avec l'aide de Dieu, j'ai trouvé un parrain, enfin une marraine peut-être. Alors j'ai répondu à ces 30 questions. On a eu cette très belle cérémonie avec l'allumage des bougies. C'était très beau. Mais j'étais pas du tout honnête avec mon parrain ou ma marraine. Parce qu'en anglais, on ne peut pas savoir si c'est parrain ou marraine. Et je lui disais pas, hein, que je travaillais pas la partie spirituelle du programme. Et il me disait, tu travailles sur cette partie spirituelle? Je disais, oui, mais c'était pas vrai. Je travaillais que la partie physique du programme. Au début, c'était facile de donner l'impression que je m'en sortais bien. J'ai continué à travailler avec un parrain, on va dire un parrain, hein, pour simplifier. Et puis ensuite, j'ai été nominée pour devenir le secrétaire de ma réunion. Et en fait, moi, j'avais le syndrome d'être un imposteur à cette mission de service, parce que je ne travaillais pas le programme. J'étais seulement en train de faire un régime pour perdre du poids. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au bout de quelques semaines où je me sentais vraiment un imposteur, une fraude? J'ai arrêté d'aller à la réunion. Et mon parrain continuait à m'appeler, il voulait prendre de mes nouvelles, il voulait me soutenir. Je ne répondais pas à ses appels et je ne l'appelais pas. Je me cachais parce que c'était trop de bonté pour moi. Je n'avais pas l'habitude de ça. Moi, j'étais toujours en train de travailler, travailler, travailler en tant que travailleur social. Après quelques mois, ma puissance supérieure m'a ramenée à une autre réunion. Et j'ai eu un deuxième parrain. C'était Phil. Ce fut un rêve. Lui, il travaillait dans l'immobilier. C'était le mec le plus merveilleux que vous voudriez connaître. Et quand je suis revenue dans le programme, j'ai pensé que j'allais être rejetée, n'est-ce pas? Que j'allais être condamnée. Qu'on allait me dire, oh, t'es nulle, quoi. Et pas du tout. Et tout le monde m'a accueillie avec chaleur. Tout le monde a été charmant. Et il voulait que je reste dans le programme. Alors, Phil m'a aidée à travailler les étapes. Et je ne vais pas trop parler de ça parce qu'on en a déjà parlé beaucoup. Mais il m'a beaucoup aidé à intensifier ma relation avec ma puissance supérieure. Il m'aidait à développer une relation personnelle avec Dieu. Moi, j'ai été élevée dans la religion catholique, donc j'avais beaucoup, beaucoup de culpabilité, hein. Et pour moi, Dieu, c'était 45 minutes le dimanche, 10 $ dans le panier, et hop, c'était bon, ça, c'était Dieu. Mais lui, il m'a aidé à développer une relation personnelle. Il a fait craquer cet extérieur que j'avais à travers le programme, en travaillant les étapes, à travers la prière et la méditation. Il a fait craquer tout cet extérieur de avoir l'air bien. Et il m'a aidé à commencer à changer ça, à travailler sur moi, à me guérir de l'intérieur et à faire des changements. J'ai appris que mes défauts de caractère, mon sens du contrôle, ma grandiosité, tout ce qui me faisait que j'étais centrée sur moi, toutes ces choses finalement pouvaient m'aider ou ont pu m'aider à un certain moment. Parce que j'étais seule avec moi-même et que j'étais un enfant et que j'essayais de m'en sortir. Mais là maintenant, j'étais un adulte. Alors, mes défauts de caractère ont ruiné une vie qui était, ont miné, pardon, ma vie qui était saine et utile, sans aucun doute. Elles ont aussi ruiné mon mariage, tout simplement. J'étais dans le contrôle, j'étais égoïste. Ça empoisonne les relations, ça. J'étais incapable de compromis. Parce que j'étais tout le temps dans le contrôle. Vous savez, je m'en fichais un petit peu de ce qu'elle pensait, parce que moi, je savais mieux. Et je ne me déteste pas pour ça. Il y avait une absence de communication. On ne pouvait pas avoir de bonne communication, puisqu'on ne communiquait pas, donc on a divorcé. C'était très contentieux et j'ai éprouvé beaucoup de souffrance. J'étais très triste et contrariée, mais mon parrain m'a aidée à gérer ça. et également avec l'aide de ma puissance supérieure et les principes du programme. J'ai besoin d'avoir ce contact personnel avec lui et avec Dieu chaque jour. Donc, il m'a tenu la main pendant mon divorce. Il m'a aidé à commencer un programme d'exercice physique pour aider mon rétablissement. Il était presque aussi soutenant que Victor l'Horrible. Et lentement, grâce à Dieu, il y a eu des améliorations dans ma vie. J'ai été libérée un jour à la fois de la nourriture compulsive. Je maintiens une perte de poids de 40 kilos environ. Et j'avais continué à travailler, hein, à cette époque-là. Je continuais à travailler avec une équipe qui s'occupait de ces délinquants, ces jeunes délinquants. Et une des femmes avec qui je travaillais était vraiment géniale. Et un jour, elle devint ma femme. Elle fait pas partie du programme. Elle avait mis une petite étiquette dans mon dos avec marqué espoir. Et on était tous les deux divorcés, donc on avait tous les deux un peu peur de se remarier. Mais bon, on l'a fait. On s'est remariés. Et c'était vraiment une joie. Et en grandissant dans le programme, pendant que mon sens d'estime de moi-même et de valeur de moi-même grandissait également à travers ma puissance supérieure, à travers le programme, à travers mon parrain, mes relations aussi, se sont améliorées. J'ai des amis dans le programme. Ah oui, je vous ai montré cette photo de moi hein, quand j'étais grassouillée. Oui, je vous l'ai montrée. Et du coup, j'ai arrêté de travailler avec des délinquants et j'ai commencé à travailler dans un hôpital psychiatrique dans le Queens. Oui, New York City. Et c'était un très gros hôpital. Je travaillais dans la partie urgence psychiatrique de cette clinique. Donc les gens pouvaient arriver à tout moment. Et j'ai travaillé avec toutes ces personnes merveilleuses. Et Phil et moi, on continue à travailler super bien ensemble. Nouveau travail, nouvelle épouse, nouvelle relation, une merveilleuse belle-fille. Et rien n'aurait pu être mieux à ce moment. Et ça a duré à peu près 10 ans. Et Phil était presque un père pour moi. Et à ce moment-là, il a eu un cancer du pancréas et il est décédé. Je ne voulais pas un nouveau parrain. J'étais obtus, borné. Ma nature de contrôle, mon ego ne voulait pas remplacer Phil, mon parrain. Et mon côté autodestructeur me racontait que je n'avais pas besoin d'un nouveau parrain. Alors, j'en ai pas pris d'autres. J'ai continué à être dans le programme, à participer à mes réunions, mais en dessous de tout ça, j'avais pas de parrain. Donc, j'étais sur le chemin de la destruction, mais je ne le savais pas. Une année après la perte de Phil qui était décédé, notre merveilleuse belle-fille est morte également. Elle s'est retrouvée dans un accident de circulation et ce n'était pas de sa faute. Donc ça m'a projeté dans une boucle de négativité. Après les 2 mois après la mort de Kate, je pensais que c'était ma faute. Je me disais que c'était de ma faute, alors que je savais très bien que c'était pas de ma faute. Alors j'ai eu cette idée folle que Dieu était en train de me punir. Alors je suis retournée en thérapie pour une thérapie du trauma et ça m'a vraiment aidée. Mais je suis pas retournée dans le programme. Je suis restée éloignée du programme à cause de toute cette chose spirituelle que j'avais pas embrassée. Alors, je me sentais tellement coupable que j'ai commencé à faire des formations pour devenir directeur spirituel. Et petit à petit, j'ai assez rapidement rechuté pendant 7 ans. Et aucun travail spirituel que je pouvais faire, qui était intéressant, hein, c'est des formations intéressantes, de l'éducation, enfin des informations intéressantes, mais j'ai quand même recommencé à manger compulsivement. Et j'ai recommencé à reprendre du poids. Mes défauts de caractère ont commencé à revenir. Dans ma relation avec Barbara, ma deuxième épouse, j'ai de nouveau commencé à être dans le contrôle. Et je recommençais à faire des descentes dans le frigo tard la nuit. Et ça a duré à nouveau 7 ans. Et je continue à prier, mais je priais pas pour revenir dans le programme. D'une certaine façon, à un certain point, ma puissance supérieure devait intervenir. Il a dû me dire, tu dois avoir vraiment peur, parce que qu'est-ce qui t'arrive? Je revenais en arrière, sans aucun doute. Après 7 années de rechute, je suis retournée à une réunion, grâce à ma puissance supérieure, sans aucun doute. Je suis allée à une réunion pour les hommes. Je me disais, les réunions pour les hommes doivent être bien. Ils ne me condamneraient pas. Ils comprendraient comment les hommes foirent, puisque c'est des hommes. Ils ont été accueillants. Ils étaient heureux que je revienne. Alors du coup, je me disais, bon, ça va peut-être marcher. Et je savais qu'il me fallait un nouveau parrain. Et je suis allée voir un de ces hommes et j'ai dit, est-ce que tu voudrais bien être mon parrain? Et il a répondu non. Et j'ai dit, mais pourquoi? Et il m'a dit, bah, ça fait 7 ans que tu es parti. Il faut que tu retournes à une réunion pour les nouveaux venus, en fait. Mais non, je ne suis pas un débutant, je suis dans le programme depuis 1989. De quoi tu parles? Je ne suis pas du tout un débutant. Ben si, en fait, c'est ça qu'il m'a dit. C'est ton premier jour. J'ai dit merde. Mon ego me disait, mais il n'est pas question que j'aille à une réunion pour les débutants, pour les nouveaux venus. Alors j'ai prié. C'était ma fierté qu'il a fallu que je ravale. Et je suis retournée à une réunion pour les nouveaux venus grâce à ma puissance supérieure. Avant que je vous dise ce qui s'est passé, c'est vraiment incroyable. Parce que dans ce programme, on peut tomber, on peut se relever. La seule condition, c'est un désir d'arrêter de manger compulsivement. On n'a pas à avoir toutes les réponses. On n'a pas à faire tout super bien, super juste. Tout ce qu'on me demande, c'est d'avoir la bonne volonté de continuer. Alors, je vais à cette réunion. Il y a 60-70 personnes à Commack, Long Island. Et après quelques réunions, je suis allée voir le coordinateur du parrainage et je lui ai dit, je crois qu'il me faut un nouveau parrain, s'il te plaît. Et elle m'a dit, OK. Quelques jours après, j'ai Dave qui m'appelle. Et Dave était extraordinaire. C'est mon parrain depuis 2019, qui est également l'année à laquelle j'ai pris ma retraite, ce qui m'effrayait, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec tout ce temps en plus que j'ai sur les mains? À quel point est-ce que je vais pouvoir descendre? Je n'ai aucun doute sur le fait que c'est ma puissance supérieure qui nous a amenés l'un à l'autre. Dave et moi, nous avons beaucoup de choses en commun. C'est incroyable. Dave a perdu un fils. Il comprend toute cette partie de moi, toute cette facette de moi. Il adore également la science-fiction. Donc on peut parler de Star Trek pendant des heures jusqu'à en avoir la bouche sèche. En revenant au programme, la communauté et communauté et le sentiment d'appartenance sont vraiment importants pour moi parce que je me suis isolée tellement de fois et je me suis sortie toute seule du programme tellement de fois. Alors la communauté, c'est très important pour moi. Je vais à un meeting à 7 heures le matin, à une réunion. Merci Rebecca. En Virginie du Nord. Et ce meeting est incroyable, cette réunion est incroyable. Je ne peux pas vous dire. Ça m'était jamais arrivé que je pourrais me connecter, être aimée, prendre soin d'eux, sentir que je suis important pour des gens qui sont dans des petits carrés à Hollywood. J'ai participé à une retraite il y a 3-4 semaines. Et ça, c'était incroyable de faire quelque chose dans la vraie vie. J'adore être connectée aux gens, en fait, sentir la chaleur humaine après avoir vu tous ces gens-là en vidéo. Donc, j'ai une réunion quotidienne, j'ai une réunion hebdomadaire également. Comment je travaille mon programme aujourd'hui? Je m'en remets à Dieu quotidiennement. Première chose que je fais quand je me lève, je me mets à genoux et je remercie Dieu pour mon abstinence. Je remercie Dieu pour OA et je remercie Dieu pour la communauté. Parce que sans la communauté, sans mon parrain et sans ma puissance supérieure, je suis perdue, complètement perdue. Je parle à mon parrain chaque jour à 6h30 du matin. On rit, on lit, pardon, on lit en général un peu de littérature. En ce moment, c'est le gros livre, 2 pages. On en parle, on parle à ce sujet chaque jour. Quelquefois, il me fait écrire dessus, ce que je déteste, mais bon, il me fait écrire et je le fais. Et est-ce que vous savez quelle chance on a d'avoir des parrains? Ceux qui ont un parrain, vous le savez, n'est-ce pas? Et y a-t-il un autre endroit dans le monde où vous pouvez vous sentir compris et aimé à ce point-là qu'en ayant un parrain? Et je suis moi-même le parrain de 4 hommes. Je suis toujours impliquée dans un travail de direction spirituelle et je guide 4 hommes dans ce travail. Je suis OK avec ce à quoi je ressemble physiquement. J'ai un plan alimentaire et je donne du service dans mon intergroupe, mais aussi au niveau de la région 6. Et le service, c'est vraiment, vraiment important. Parce que ça me sort de moi-même, le service. Dans mon isolement, dans ma tête, je peux me perdre. Mais quand je vous écoute chaque matin et quand je vous aide chaque matin, c'est important. Ça fait 30 ans que je suis très heureusement, 31 ans, mariée. La seule partie un peu triste de ma vie, c'est que ma maman a la démence. Et ça je bataille un petit peu avec ça. Et il y a 2 semaines, je me suis rendu compte que ma colère, pourquoi j'étais tellement en colère, c'est parce que ça s'ouvrait, ça cachait, ça couvrait ma souffrance de la perdre et de l'avoir déclinée. Mais en fait, j'ai jamais été aussi heureux. Et ça, c'est grâce à Oa. C'est grâce à ma puissance supérieure, au parrainage, aux réunions et à la communauté. Tu mets tout ça ensemble et tu vas devenir aussi heureux que je le suis. Merci de m'avoir laissé partager mon histoire avec vous. Et j'espère que vous rentrerez chez vous en toute sécurité. Merci Ed, c'était superbe, fabuleux. Est-ce que c'était pas un incroyable week-end de rétablissement? Vous avez toutes les informations concernant Ed dans le chat. Et on nous dit qu'il faut qu'on reste dans le moment, qu'on reste dans notre journée, dans nos 24 heures. On l'a entendu celle-là, hein? Qu'est-ce que vous faites en octobre prochain, 2025? Alors, je vais vous donner le secret le moins bien gardé de tout le week-end. La convention de l'an prochain se passera à Rochester, New York. Le 24, 25 et 26 octobre 2025. Au Hyatt Regency. Et pour ceux qui sont frugaux parmi nous, vous pouvez commencer à réserver dès maintenant. Pendant 3 semaines, il y aura un tarif spécial de 50 $. Dès maintenant. Il essaye de se sauver. Ben oui, c'est normal, je m'isole. Donc si vous avez passé un bon moment ce week-end, si vous avez éprouvé du rétablissement, de la joie et que vous voulez venir à notre convention l'année prochaine, venez. Quand vous êtes rentré sur le site de la région 6, vous trouverez toutes les informations. Merci. On peut aller à Rochester by bus, en bus. Ah. Voilà, Ed est en train de préciser qu'il y a plein de facilités d'aller à Rochester en bus, en avion, et on peut y aller en voiture. Et ici, on encourage le service, alors si vous voulez donner votre service. Pour moi, ça a été vraiment formidable ces 8 derniers mois. C'était la première fois que je faisais ça et je n'étais pas allée à un congrès depuis 30 ans. Et je me suis rendu compte de tout ce que j'avais raté. Alors venez. Et si vous ne pouvez pas faire de service avant, faites-en quand vous êtes là. Moi, c'est vraiment l'un de mes meilleurs week-ends que j'ai eu depuis longtemps. Et j'ai eu tellement de gros câlins. Maintenant, on va faire la loterie. Ah, oh, moi je suis un. Allez, ça, c'est Dorothée qui demande un grand, une salle d'applaudissements pour Karen and Ken qui ont l'idée cette convention. Christine, est-ce que tu veux prendre la suite? Christine, pour la suite? Karen H, c'est celle qui a fait le lien avec l'hôtel et qui nous a parrainés. Alors, avant qu'on fasse la loterie, j'aimerais que tout le monde se lève en cercle et fasse un cercle.
Alors, vous pouvez vous prendre la main si vous êtes si vous êtes confortable. Si vous voulez pas vous tenir la main, vous pouvez vous installer à l'intérieur du cercle. On veut que tout le monde soit confortable. Alors, main dans la main. Faisons ensemble ce que nous n'avons jamais pu réussir tout seul. Plus jamais nous ne perdrons espoir, car nous ne comptons plus sur notre volonté défaillante. Nous travaillons ensemble. Main dans la main, nous formons une chaîne qui trouve sa force dans une puissance plus grande que la nôtre. Et dans cette chaîne, nous attendent une compassion et un amour plus grand que tout ce que nous n'avions pu imaginer. Nous deux, on veut vous dire merci. Alors, c'est des deux co-présidents du Congrès. Merci à l'incroyable comité pour leur travail acharné. Et on nous a dit que c'était du gros travail, mais qui a apporté beaucoup de joie. C'était une fin de semaine merveilleuse. J'espère que tout le monde en a bien profité. Alors, rappelez-vous vous retournez dans le monde extérieur. Prenez soin de vous. Des fois, c'est pas toujours simple de réintégrer notre milieu habituel. Rapportez avec vous et partagez l'amour, la sérénité, le rétablissement que vous avez reçu ce week-end. Rapportez-le à la maison avec vous. Quand vous retournerez dans vos réunions, rapportez la joie que vous avez ressentie dans ces salles. C'est important pour nous d'encourager, c'est personnel. Il faut se rétablir dans nos réunions en personne. Il faut avoir le courage de partir une nouvelle réunion si c'est nécessaire. On va avoir de la difficulté à survivre si on ne rétablit pas notre réseau de réunions. C'est sûr que c'est mon opinion, mais c'est ce que je ressens. Quand on retrouve 50 à 60 personnes dans une salle, il y a comme une ambiance particulière. Rapportons ça à la maison. Avançons. Allumons le feu. Alors, réallumons le feu du rétablissement, là, aujourd'hui. Bon, vous m'avez assez entendu. On vous souhaite de bien rentrer à la maison. Bonjour tout le monde, je suis Lisa et je suis une autre mangeuse compulsive. Donc, alors, il va y avoir une fête. Alors, il y a un anniversaire qui va avoir lieu dans la région 6. Je m'excuse, je n'ai pas compris l'endroit. Alors, vous allez retrouver l'information dans le calendrier web de la région 6. Donc, sinon, venez à notre anniversaire et nous soutenir. Maintenant, pour ceux qui aiment vraiment voyager en nous, c'est la Convention des services mondiaux en nous. C'est à Orlando, en Floride. C'est près de la fin de août. On avait les dates, mais... Alors, du 21 au 23 août, à Orlando, il y aura la conférence des services mondiaux. Donc, le congrès des services mondiaux à Orlando, en Floride, du 21 au 23 août. Alors, où est Laura? Est-ce que tu es prête à faire ton devoir? Ou bien t'aimais mieux que quelqu'un d'autre le fasse aujourd'hui?